Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 7 novembre 89.
Je reviens sur cette question. D'où vient ce qui est en tant qu'être? J'espère que vous y avez pensé. Dans l'analyse de cette interrogation qui porte en premier lieu sur le devenir, mon expérience de la cause efficiente est toujours liée au devenir. Et elle s'achève toujours à une détermination particulière, à une forme. Tout devenir que j'expérimente est toujours particulier et implique cette détermination formelle, qualitative. Tout mouvement, bien le mouvement vital que le mouvement purement physique, et ce qui est comme tel, si je prends le point de vue de l'être comme tel, est au-delà du devenir. Il peut l'impliquer, mais il est au-delà du devenir. Donc, il est au-delà de cette analyse de la cause efficiente. Et ce ne sera que d'une autre manière que je pourrai me poser le problème de la cause de l'être. Ce sera à partir de l'être premier. Le problème de la création se posera d'une façon tout autre. Ce sera lorsque j'essaierai de comprendre la relation qui existe entre l'être premier et moi-même, entre l'être premier et toutes les autres réalités. Au fond, cette question « d'où vient l'être ?» me conduit presque immédiatement à cette autre question, celle de la finalité. L'être comme tel ne peut être atteint que sous le point de vue de l'interrogation « qu'est-ce ?» pour découvrir la cause selon la forme ou la cause finale, la fin. Alors, j'en arrive à cette question. Quelle est la finalité de ce qui est ? Je pourrais me poser aussi la question, est-ce qu'il y a une cause exemplaire de ce qui est? Alors ce serait la même chose, qu'il ne peut pas y avoir de cause exemplaire de ce qui est. Parce que la cause exemplaire est liée toujours, pour moi, à l'idée, à une idée. Fixé à la forme. Devenir peut avoir une cause exemplaire, mais pas l'être. Je pourrais reprendre poser le problème alors du côté de la création, alors du côté de la sagesse divine, et pas directement dans l'analyse. Et je vois là les limites de l'analyse métaphysique. C'est que l'analyse métaphysique ne peut se faire qu'à l'égard des deux causalités, la causalité selon la forme et le point de vue de la fin. Et là, je crois que c'est important de le saisir, parce que ça me fait comprendre exactement ce dépassement de l'analyse métaphysique par rapport aux analyses de tout le reste de la philosophie. Pour toutes les autres parties de la philosophie, il y a ces cinq causalités. Tandis que lorsqu'il s'agit, parce que toutes les autres parties de la philosophie restent liées au devenir, tandis que lorsque mon intelligence, partant de ceci est, cherche à préciser ce qu'est l'être, elle ne peut atteindre directement l'être que dans la ligne du tiesti. Qu'est-ce que c'est ? Dans l'ordre de la détermination et dans l'ordre de la finalité. Là, je vois la place de la forme de la détermination métaphysique. C'est important de dire cela, parce que ça fait peut-être comprendre tout le point de vue du platonisme et du néoplatonisme. C'est vrai, il faut se demander pourquoi, au fond, le platonisme et le néoplatonisme a une telle emprise sur l'intelligence humaine. Et Heidegger n'hésite pas de dire « Toute la philosophie occidentale est comme une interprétation du platonisme, une glose du platonisme. » Pour dire qu'au fond, il n'y a qu'une seule philosophie occidentale au niveau de la philosophie première, c'est le platonisme et le néoplatonisme. On doit saisir pourquoi il y a cette espèce d'emprise si forte. Je crois que c'est le point de vue de la forme, donc le point de vue de la qualité. Puisque la forme la plus parfaite que je saisis, c'est la qualité. La qualité, c'est la forme par excellence. Comme la qualité est saisi immédiatement, c'est le seul prédicable que je saisis immédiatement. J'allais dire, la qualité, c'est quelque chose qui me permet l'intuition, qui me permet ce contact direct de l'intelligence liée à la sensation. Les qualités se manifestent dans un langage heideggerien. Je dirais que c'est la qualité qui dévoile l'être. C'est vraiment la qualité qui dévoile l'être. Il me semble bien, à cause de ce contact tout à fait particulier que nous avons avec les sensibles propres, les qualités propres, immédiates. Alors, on comprend comment la forme peut apparaître comme un absolu, et que je ne la dépasse pas. Platon, Heidegger, ne dépassent pas le point de vue de la forme. La manifestation de l'être, le dévoilement de l'être. Ce n'est pas l'être qui saisit, mais c'est le dévoilement de l'être. Et c'est assez subtil, mais c'est, je crois, ça. Comme Platon, la forme en soi. Le propre d'Aristote, c'est de saisir la distance qui existe, la diaphora, qui existe entre ce qui est et la forme. Et il y a deux dépassements de la forme, il n'y en a pas 36, il y en a deux. L'ousia et la fin. Vous voyez, ce serait très intéressant ça, parce que ça ferait comprendre quelque chose qui est toujours un petit peu délicat à comprendre dans la philosophie d'Aristote, l'importance du tiesti. Qu'est-ce ? Le tiesti, l'interrogation du tiesti, est toujours liée à l'acuité. L'acuité, c'est l'intelligibilité la plus propre, la plus immédiate de la forme. Toute forme, toute qualité a une acuité. Alors, il y a un dépassement de la forme par l'ousia et un dépassement de la forme dans le point de vue de la fin, c'est-à-dire l'acte. Il y a deux dépassements de la forme. Mais on comprend très bien comment l'intelligence liée au sens reste liée à la forme. Reste liée à l'aspect quiditatif. Et quand saint Thomas dit que l'appréhension saisit tout selon le mode quiditatif, il le dit plusieurs fois, toute notre intelligence saisit, appréhende tout quiditativement. Bon, on répète saint Thomas, mais on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose de très très profond. Ça veut dire qu'en effet, mon premier contact avec le réel, c'est toujours l'acuité. Mon premier contact intellectuel avec le réel, c'est toujours l'acuité. Le dépassement de l'acuité, l'appréhension, c'est le jugement. Le jugement s'appuie, se fonde sur l'appréhension, mais dépasse l'appréhension. Et le jugement saisit ceci est. Donc le jugement ne saisit plus tout selon le mode quiditatif, mais saisit tout du point de vue de l'exister, de ce qui est. Premier dépassement de Platon de la forme en soi, c'est le jugement d'existence qui aboutit à découvrir l'ousia, la substance. Premier dépassement. Dépassement radical, fondamental. C'est du reste pour ça, je crois, qu'Aristote invente le mot to ti en einan, qu'on a traduit quidité. Pour dépasser la forme, il faut faut comprendre que la forme, pour nous, se présente toujours comme la première chose que nous appréhendons. Par mode quidditatif. C'est très astucieux d'avoir inventé, on dirait dans le langage moderne, d'avoir thématisé la forme, la présenter dans toute sa force, dans tout son pouvoir sur nous, son pouvoir de séduction. Le pouvoir de séduction de la forme, c'est d'être la quidité. Puisque j'appréhende tout par mode quiditatif. C'est bien ça la séduction. Quand on est séduit, vous savez bien que propre de la séduction, on voit tout sous cet angle-là. C'est ça le propre de la séduction. Alors on dira, couramment, c'est son dada. Parce qu'on est séduit. Quand vous êtes séduit par quelqu'un, vous voyez tous les autres en référence avec lui. C'est très embêtant pour les autres. Tout le temps. Il est prototype. C'est la forme, c'est la mesure de tout le reste. On est séduit. Il y a une séduction de l'intelligence par rapport à la forme. C'est très curieux. Et ça, on le voit très bien ici, avec le point de vue de la séduction, par le point de vue de la quiddité, je veux dire. On saisit tout selon le mode quidditatif. Le jugement, ceci est. Et c'est ce jugement, ceci est, qui me conduit à l'ousia et qui me conduit à la fin. Alors, c'est là où il faut bien saisir comment se pose ce nouveau problème de, par le jugement d'existence, par le jugement, ceci est, je suis conduit à découvrir ce qui est d'ultime. Parce que je ne peux pas saisir l'origine propre de ce qui est. Je ne saisis l'origine propre que des quiddités, que des formes, en mode quidditatif. Dès que je dépasse la forme et que je suis dans l'ordre de l'être, mon intelligence se trouve devant quelque chose qui la dépasse, qui la mesure, qui la transcende. D'où je me pose la question, comment l'être termine mon intelligence? Comment elle la finalise? Comment l'être, vous voyez, est en quelque sorte mesure et fin de ce qui est, fin de mon jugement, de ma connaissance. Mais ce n'est pas suffisant, parce que là je reste dans l'ordre de la connaissance. Comme ce qui est premièrement atteint par mon intelligence, c'est l'être, je dois me poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de l'être? Est-ce que l'être est à lui-même sa propre fin? Quelle est la perfection propre de l'être? Est-ce que la perfection propre de l'être, c'est quelque chose qui est au-delà de l'être? Le père de finance va inventer quelque chose de nouveau, le surêtre. Super-être, on dirait aujourd'hui. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'être? Il y a un super. Je veux du super, hein, vous voyez? C'est ça. C'est le dépassement de l'essence. Alors je veux du super. Il y a quelque chose de plus. On va aller plus loin. Alors, y a-t-il, je me pose la question, y a-t-il vraiment quelque chose qui est au-delà de l'être? Ou est-ce que l'être est à lui-même sa propre finalité? je me le pose du côté de l'intelligence, et je m'en dis, c'est pour ça qu'Aristote maintient ce tiesti pour la recherche de l'ousia, le tiesti pour la recherche de la fin. C'est très très curieux, ça. C'est l'interrogation, qu'est-ce qui dépasse l'acuité du côté ousia? L'interrogation, qu'est-ce qui dépasse l'acuité du côté fin? Alors ça permettrait de dire qu'au fond, je découvre le principe, la fin, selon la forme. Et je découvre la fin. On ne dit pas que l'acte, c'est cause selon la fin. Mais on dit que l'acte est fin. Vous voyez, là encore, au point de vue du langage, il y a quelque chose d'assez curieux. Pourquoi ? C'est un peu l'analyse, pour débuter, du langage d'Aristote que je fais ici. Ce qui m'a toujours beaucoup frappé. L'ousia, Aristote dit cause selon la forme de ce qui est. Il dit ça dans son dernier livre du De Anima. Cause selon la forme. Et pourquoi, lorsqu'il atteint l'acte, l'être en acte, l'énergéia, il dit cause, il dit fin. Il ne dit pas cause selon la fin de ce qui est. Très curieux, comme langage. Pourquoi on éprouve le besoin de dire cause selon la forme de ce qui est, et on ne dit pas cause selon la fin de ce qui est? Le langage exprime toujours, surtout chez Aristote, hein, le langage est particulièrement éloquent chez Aristote, puisqu'il supprime toute rhétorique dans sa métaphysique. C'est pour ça que c'est quelquefois fatigant. Il parle de la fin, télos, tout court. L'acte est télos, fin. C'est la fin. C'est très net, ça. Il faut se demander pourquoi, vous voyez. Je crois que c'est ça qui permet de comprendre comment la fin est cause des causes. C'est cette fameuse affirmation que saint Thomas reprendra. La fin est cause des causes. Si la fin est cause des causes, je ne peux pas dire cause selon la fin. Parce que la fin, par elle-même, est ultime. Tandis que l'ousia n'est pas ultime. Elle est fondamentale. Alors je dis cause selon la forme. Parce que qui dit cause, qui dit principe, dit quelque chose d'ultime. Mais je relativise cet ultime en disant selon la forme. Tandis que je ne relativise pas l'ultime de la fin, parce que la fin par elle-même transcende. Et je crois que c'est ça le langage, ce qui fait comprendre comment la recherche de la fin, c'est la recherche de la cause des causes. Je ne peux pas aller plus loin. Mais, alors, là aussi, comprenez pour le langage d'Aristote, Aristote invente un mot pour la recherche de l'ousia, totienainain. Aristote invente un mot pour la recherche de l'acte, entelecheia, ce que Tricot traduit entélégie, ce qui n'est pas un mot français, donc il vaut mieux mettre entelecheia. Entelecheia, qui est un mot propre d'Aristote. Donc Aristote invente deux mots. Il y a deux néologismes aristotéliciens. axé pour la recherche de la substance et la recherche de l'acte. C'est très curieux. Pour bien montrer que la métaphysique n'est pas au niveau code naturel de notre intelligence humaine. On est épuisé quand on découvre la substance. On est épuisé quand on découvre l'acte. Alors on est tellement épuisé qu'on a besoin d'avoir une petite oasis qui nous y conduit, sur laquelle on se repose. Totienainain, quidite, entelekeia. Alors, entelekeia, en, telos, entelo, keia. Entelekeia, c'est très, très curieux. En un seul mot, hein, en réalité, c'est en. L'ayance dans la fin. Si je traduis mot à mot. L'ayance dans la fin. En. Keia. Keinein. Donc, dans la fin, on se repose. On pourrait presque dire le repos dans la fin. En telekeia. Vous voyez, comme il y a, on demeure, la demeurance. Dans la substance, il y a alors la possession dans la fin, l'avoir. Quand on touche la fin, on est pleinement soi-même. On est parfaitement épanoui. Mais ce n'est pas l'acte. Parce que le sujet est impliqué dans Entelekeia. Vous voyez, comme dans la quidité, l'intelligence est impliquée. Ce n'est pas l'objectivité absolue de l'être. L'objectivité absolue de l'être, c'est l'ousia et l'acte. C'est là où l'intelligence s'arrête. Mais avant de s'arrêter, il y a l'intelligence qui y conduit. Oui, c'est l'intelligence en acte atteint l'acuité. L'intelligence en acte demeure dans la fin. Mais demeurer dans la fin, c'est encore subjectif. Ce n'est pas l'acte qui transcende. Alors, ceci c'est un prolégomène pour entrer dans cette recherche très particulière est très difficile de l'acte. Mais d'une certaine manière, plus facile que celle de la substance. C'est assez curieux, ça. Bon, ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est qu'il n'y a que deux axes dans la métaphysique. Deux axes de recherche. Il faut déblayer tout le reste. Tandis que pour toutes les autres parties de la philosophie, il y en a quatre. L'abandon de la matière me permet d'être au-delà de l'efficience. Le dépassement de la matière qui est un abandon. Je laisse de côté la matière. Et c'est pas seulement cosmonaute qu'il faut aller dans la Lune. Il faut aller dans l'être. C'est mieux comme ascension. Alors pour aller dans l'être, on abandonne la matière. On laisse tomber la matière. C'est pas commode puisque nous gardons notre corps. C'est pas commode puisque nous gardons toujours nos pieds sur terre. Nous gardons nos mains qui touchent. Regardons tous nos sens. Et l'intelligence est capable de se séparer. C'est pour ça qu'Aristote appelle le nous séparer. Le nous séparer, il est séparé. Intellectuellement, volontairement, de tout devenir. qu'on peut dire que l'ousia me fait dépasser toute matière et l'énergeia, l'acte, l'être en acte, la fin, me permet de me séparer de toute efficience, de toute cause efficiente. Alors, voyez la purification que ça donne à l'esprit. Ça me permet de comprendre que le contemplatif est au-delà de toute efficacité et qu'il rentre dans la finalité. Que le contemplatif dépasse tout le domaine de la matière pour entrer dans la finalité. Et que tout lien avec l'efficacité, l'œuvre, limite et me maintient dans le devenir. Et donc empêche le vol contemplatif, le vol de l'aigle. Aristote ne dit pas, puisque toutes les métaphores sont supprimées. Mais dans son enseignement, Aristote avait donné pas mal de métaphores. Quand il écrit, c'est différent. Donc voyez bien, cette recherche ultime, c'est l'ultime recherche de l'intelligence humaine. Quand l'intelligence humaine atteint l'être en acte, l'intelligence atteint le sommet de sa connaissance. C'est important quand même. L'Himalaya, le Mont Blanc et l'Himalaya. La substance est le Mont Blanc. Et l'être en acte, c'est l'Himalaya. C'est vraiment le sommet des sommets. C'est pour ça qu'on d'abord regarde la substance. Mais c'est les deux tiestis. Alors ça, c'est aussi, c'est très curieux de voir ça. Les deux tiestis. Qu'est-ce ? Et ce qu'est-ce devient le pourquoi. Pourquoi l'être ? Quelle est la finalité de l'être ? Y a-t-il une finalité de l'être en dehors de l'être ? Bien dit, non, il n'y a pas de finalité de l'être en dehors de l'être. L'être est à lui-même sa propre finalité. Mais c'est l'être en acte. Et c'est pour ça que, de fait, j'ai tellement de peine de découvrir que l'être en lui-même a sa propre finalité. Puisque tous les êtres que je constate, que je touche, que je vois, impliquent une potentialité. Moi-même. Nous sommes tous en potentialité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'acte pur. Si vous étiez l'acte pur, vous seriez intouchable. La vache sacrée. Seul l'acte pur est intouchable. Dès qu'il y a la potentialité, on est touchable. Puisqu'on peut progresser. Et on réclame un autre qui nous touche. Qui a de l'influence sur nous pour qu'on puisse progresser. Tandis que l'acte pur est intouchable. Ne me touchez pas, je suis parfait. C'est être intouchable. La vache sacrée dit ça. Ne me touchez pas, je suis parfait. Vous n'avez pas le droit de toucher ce qui est parfait. Parce que vous le contaminerez. Or, il est parfait. Il est absolu. Oui. C'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qui est très curieux dans cette recherche de l'être en acte. Vous cherchez si en dehors de l'être, il y a quelque chose de parfait, ou si l'être est à lui-même sa propre perfection, sa propre finalité. Si l'être est en lui-même son propre bien. Et comment l'être en lui-même est son propre bien? Alors, dans cette petite enquête, je crois qu'il faut, c'est tout à fait normal, voir comment, dans l'enquête qu'on fait des prédicaments, on voit que la substance ne résout pas tous les problèmes. Et le gros problème que la substance ne résout pas, c'est la relation. La relation, éclatement de l'être. Puisque la substance, la relation, c'est advers, tourné vers. Tandis que la substance, l'ousia, est in. L'intase et l'extase. La substance, c'est in, immanence. L'immanence la plus absolue. Tandis qu'au contraire, la relation, toute voile dehors. Il y a des êtres qui sont tout le temps relatifs. Et ils sont tout le temps désireux d'être tournés vers. Ils ne ferment jamais leur porte. Spiritualité de la fenêtre ouverte. Tout le temps, ils regardent. Ils attendent. Ils sont tournés vers. Tandis qu'au contraire, les autres, ah oui, ils ferment leur porte. Je ne suis bien. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre, ah, ça me trouble. Je ne suis bien qu'avec moi-même. La pure immanence de l'ousia, la pure autonomie de l'ousia. Donc, vous voyez, la relation, l'ousia n'explique pas la relation. L'ousia n'explique pas le relatif. Je ne comprends pas. Si je suis ousia, je ne comprends pas le relatif. Et cependant, c'est un des prédicaments qui existent, je le constate. Je suis obligé de reconnaître ça. Et je suis obligé de reconnaître que, au point de vue éthique, la relation joue un rôle énorme. Dans la vie humaine, la relation joue un rôle énorme. Puis il y a l'action, cet autre prédicament. Action et passion. L'ousia n'explique pas entièrement. Je ne vois pas comment l'ousia puisse expliquer ce fait que je suis capable d'agir et je suis capable de bâtir. L'ousia est au-delà, pas directement. Mais je retrouve ce que je vois du côté de l'âme. L'âme, pour agir, a besoin de puissance. Et l'ousia, comme telle, n'explique pas l'action et la passion. Ça fait partie des prédicaments. Je n'explique pas non plus l'habitus. Ce dernier prédicament, tout à fait particulier. L'exercice. J'utilise toute chose. L'homme est un être qui, non seulement est en relation, mais il use des choses. Gardez le gosse. Tant qu'il ne s'est pas servi de quelque chose, ça ne va pas. Il a besoin de dévisser, d'utiliser. Très, très curieux, surtout aujourd'hui. L'usage, le travail. Parce que l'habitude s'applique tout ça. Et dès que je me sers de quelque chose, il y a un lien particulier entre ce dont je me sers et moi-même, mon habit. Comment se fait-il que, au bout d'un certain temps, votre habit vous distingue de l'habit du voisin? Ça, vous voyez, c'est l'usage. Il n'est pas content quand, au bout d'un certain temps, on n'a plus fait attention à lui. Très significatif, ça. Voyons, moi, ça crie, ça. Et on use des choses. Et le fait même qu'on use des choses, on se transforme et on les transforme. Eh bien, la substance n'explique pas ça. Donc il y a là quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche plus. Ah, vous n'entendez plus. Plus rien du tout, il faut le dire. Vous n'entendez plus rien. Bon, je ne demande pas mieux. On revient à des choses plus simples. Louisiane n'explique pas ça. Donc je suis obligé. Les miettes de lettres. Les miettes. Ceci, c'est très important pour comprendre que, de fait, la métaphysique d'Aristote n'est pas une ousiologie, comme le dit Gilson. La métaphysique d'Aristote n'est pas le logos de l'ousia. C'est le logos de l'ousia. C'est la découverte de l'ousia. Mais c'est quelque chose de plus. L'être implique en lui-même une surabondance par rapport à l'ousia. Et voyez, je pourrais le prendre d'un point de vue psychologique, ou d'un point de vue éthique, ou d'un point de vue vital, en disant l'amour est extatique. Alors, est-ce que l'amour est encore explicable par l'être? Ou est-ce que je suis obligé de dire que l'amour n'est plus être? Mais si je renferme l'être dans l'ousiologie, ce que veut faire Gilson par rapport à Aristote, je dis non. L'amour est quelque chose d'autre que l'ousiologie. Parce que l'amour, c'est l'action par excellence. L'amour, c'est la passion par excellence. L'amour, c'est l'usage par excellence. Donc, bien comprendre, voyez, ce que Lousia n'explique pas immédiatement. Je vous ai dit, Lousia explique tout, mais pas immédiatement. Et donc, il faut, là, nous poser le problème, toutes ces miettes de l'être, tout ce qui dépasse Lousia. Qu'est-ce l'action? Qu'est-ce l'exercice? Qu'est-ce la relation? Posant la question, qu'est-ce tous ces dépassements de Lousia, je vois que la forme ne peut pas expliquer cela. Alors, est-ce que la fin va pouvoir l'expliquer? Mais qu'est-ce que c'est que la fin de l'être? Qu'est-ce que c'est que la perfection de l'être? Alors ici, petite topic historique. Elle est très courte. Quels sont les philosophes qui ont parlé de la fin de l'être? Aristote, tenir.